Et si on parlait de football, loin de la Russie et du mondial, mais du côté des enfants et des ados?
Rue des Écoles, Louise Touret.
Le football, ce ne sont pas seulement des millionnaires qui courent après un ballon, mais aussi et surtout des millions de gens, dont pas mal d'enfants et de jeunes qui courent après des ballons. Le mondial a commencé jeudi et c'est l'invasion du football à la télévision, dans les cafés, les rues, sur France Culture aussi, oui. Mais le foot, si c'est un grand spectacle sans cesse renouvelé, au début, c'est un sport, un loisir, une passion ou un jeu tout simplement. Le football est très présent et compte beaucoup dans la vie de beaucoup d'enfants. Ça commence souvent dans les cours d'école pour s'amuser. Et d'ailleurs, dans les cours d'école, le football prend beaucoup de place, un peu comme le mondial en ce moment en fait. Nous allons parler de l'aspect festif du football, du fait de soutenir une équipe, de la dimension passionnelle et culturelle de ce sport chez les supporters, de l'aspect commercial aussi peut-être, et puis bien sûr et surtout nous évoquerons l'éducation par le foot. Qu'apprend-on par et avec le foot? C'est la question qu'on va poser à nos invités. Et puis en fin de d'émission, nous parlerons de musique et non plus de sport avec la chanteuse Lucia de Carvalho. Elle a raconté son enfance à Sophie Bobert, une enfance qui va de l'Angola en Alsace, en passant par le Portugal et puis bien sûr le Brésil pour la musique. Et puis à mi-parcours, ce sera les actualités de l'éducation, actualités choisies par Marie-Caroline Missir. Bonjour.
Bonjour.
Au menu, au programme de ces actus, Marie-Caroline?
Du bac, et puis un fantasme de haut fonctionnaire, je vous raconterai.
Ouh là là. Bon, une rubrique en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Alors, on a entendu un extrait du clip Fier d'être bleu. C'est le clip officiel de la Fédération française de football. Et moi, je l'ai vu sur le site du ministère de l'Éducation nationale, sur la page Eduscol, très officielle, parce qu'il y a eu pas mal d'opérations pour soutenir le mondial, les enfants supporters. Dans ce clip est présentée une France métissée et surtout une vision du football comme un sport assez mixte. On voit beaucoup de filles parmi les joueurs, des joueuses donc, et puis des supportrices, un football présenté comme aussi intergénérationnel, donc du côté de la pratique et du côté des tribunes. On peut dire sur le foot en France qu'il compte 2,2 millions de licenciés, 400 000 bénévoles, dont parmi ces licenciés, 160 000 femmes. Donc ça fait quand même des gros chiffres. On peut dire aussi qu'il y a énormément d'enfants qui jouent au football dans les cours d'école. Et si j'en ai parlé dès l'introduction, c'est parce que c'est souvent une entrée dans ce sport pour beaucoup d'enfants. Et puis aussi un petit sujet de conflit dans les cours de récré, mais on va y revenir. Je salue mes invités. Nicolas Ourcade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'École centrale de Lyon, spécialiste des supporters de football. Est-ce qu'il y a un substantif pour supporter, le supporting,
le... On dit le supporterisme en France.
Ah, parce que j'ai cherché en préparant l'émission. Donc j'ai appris un mot, merci beaucoup. Cyril Nazareth, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également sociologue au centre Maurice Albax. Vous avez réalisé une enquête ethnographique dans différents clubs de football du département de la Seine-Saint-Denis. Bernard Comand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, éditeur au Seuil et président de la section football du Paris Université Club, le PUC. C'est un club que je connais bien. On vous connaît bien également à France Culture. Combien de licenciés au PUC?
1200 environ.
Voilà, c'est le grand club du sud de Paris et vous entraînez vers le stade Charletti.
C'est ça, dans un terrain synthétique annexe au grand stade de Charletti et avec aussi d'autres terrains, parce que accueillir autant de membres suppose quand même plusieurs terrains.
avec beaucoup de petits garçons en uniforme, finalement, avec le maillot et les grandes chaussettes et tout ça. On voit beaucoup de petits garçons et de petites filles aussi habillées pareil.
En tenue plutôt qu'en uniforme, je pense. Mais c'est clair que c'était un souci qu'on a eu assez vite, que tout le monde puisse s'identifier à cette appartenance à un club à travers un survêtement, un maillot et nos couleurs sont le violet, ce qui est un petit peu compliqué parfois avec les équipementiers.
Mais c'est la couleur de France Culture aussi, enfin c'est pas pour ça qu'on vous a invité. On va commencer par parler du lien du football avec l'enfance.
Mon père y peint, et donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui, près de lui, à peindre, à dessiner avec lui. Joue au foot, c'est lui qui nous a initié au foot.
Tous les trois.
Avec mes frères, ouais. Et puis on jouait partout où il y avait de l'espace, quoi. On avait peur de rien, quoi. Aujourd'hui, on a peur de tout. Les gamins, on les voit même plus dans les rues jouer au foot, quoi. On jouait partout dans la rue, autour, à l'école, à la maison, partout, avec les uns, les autres. C'était une époque merveilleuse, on a vécu des moments merveilleux.
Qui a reconnu la voix? Oui, Nicolas Hourcade.
C'est Éric Cantona.
Et je tiens à dire que Marie-Caroline Missire avait également reconnu la voix d'Éric Cantona qui était interviewé par Laure Adler en novembre dernier dans son émission L'Heure Bleue sur France Inter. On jouait tout le temps, partout, c'était merveilleux. Il y a cette dimension de liberté et d'accès très facile à ce jeu. Il suffirait d'un ballon et encore parfois on peut s'en fabriquer un pour jouer au foot. C'est ça qui fait le succès de ce sport, Nicolas Hourcade?
Oui, ça y contribue en partie, c'est-à-dire que vous évoquez 2,2 millions de licenciés, mais il y a beaucoup plus de pratiquants qui vont jouer au football dans les cours de récréation, comme vous l'avez dit, mais aussi de manière autonome. Donc c'est un sport qui est très facile à jouer, et cette facilité explique en partie le fait que ce soit devenu le premier sport mondial. C'est pas uniquement lié à ça, mais c'est aussi lié à ça. Ça a facilité ensuite l'histoire de ce sport qui a permis une conquête progressive des différents continents, ce qui fait qu'aujourd'hui le football est à peu près joué partout et suivi partout. Et c'est devenu un phénomène mondial à tel point que aujourd'hui en Chine les gens vont se passionner pour un Barça Real ou pour un match du championnat anglais alors même qu'il n'y a pas forcément de joueurs chinois qui jouent. Donc c'est devenu un phénomène planétaire et le sport numéro un à l'échelle mondiale.
Alors il y a la passion des paris, mais au début quand on est tout petit il y a la passion du jeu. Est-ce que le football, et c'est une vraie question parce que moi je ne joue pas spécialement au foot, a une dimension ludique plus importante que d'autres sports? Est-ce qu'il arrive à préserver cette fonction malgré le fait que voilà, ce soit des grandes compétitions avec tout ce spectacle et cette mise en scène? Là, on voit des matchs tous les jours à la télévision. Cyril Nazareth.
La dimension ludique, oui, elle est très présente, surtout chez les tout-petits. Là, le plaisir dont parle Éric Cantona est suffisamment révélateur pour aborder cette question de l'espace familial et l'espace enfantin avant de passer au sport, au spectacle. Je pense que les enfants, spontanément, ne se posent pas tout de suite ces questions-là, même s'il y a déjà des éléments d'identification via les médias, via les grands qui jouent dans le club, etc. Mais ce qui est très important là, dans ce qu'a dit Éric Cantona, c'est qu'il y a la fratrie, il y a le père qui transmet une forme d'héritage, une passion, et cette transmission-là du père aux petits-enfants dès le plus jeune âge. Souvent, les gamins qui commencent dès l'âge de 5 ans, le père était footballeur et accompagne sur le bord des terrains. Et ce plaisir de réaliser un geste, réaliser le petit pont, etc., est toujours très présent sur les terrains.
C'est ce que les petits garçons disent, en tout cas c'est ce qu'ils vous disent, c'est ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a encore une dimension de jeu quand on prend sa carte au PUC, le club que vous dirigez, côté football, Bernard Comment?
Oui, cette dimension ludique, elle est très réelle. D'ailleurs, en dehors même des entraînements, moi je vois qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent sur les terrains. Un certain nombre d'entre eux ne font pas partie du club. D'autres sortent d'un entraînement mais continuent de jouer. Il y a cette passion, et cette passion, on la retrouve dans le regard de ces tout petits enfants. Quand vous êtes président d'un club, c'est au fond la chose la plus réjouissante, c'est de regarder les enfants jouer. Et je crois que le succès du football tient à sa simplicité. Au fond, après, il y a toutes sortes d'organisations tactiques, mais les règles sont relativement simples et l'espace est grand. Si vous le comparez à d'autres sports de ballon, c'est beaucoup plus simple et il y a beaucoup plus de liberté dans l'organisation du jeu qu'au rugby, par exemple. Donc, cette circulation du ballon fait que dès qu'on est petit, on y trouve un double plaisir dans le football. C'est à la fois l'expression de qualité individuelle, mais c'est aussi la découverte de ce qu'on peut faire collectivement en faisant circuler un ballon. Et je crois que c'est la dialectique entre ces deux plaisirs qui fait que le football est vraiment ancré dans les souvenirs de l'enfance. Évidemment, cette enfance, elle a beaucoup évolué, parce que si je me rapporte à la mienne, qui est malheureusement un peu éloignée maintenant, il n'y avait pas du tout l'écho médiatique du football qu'il y a aujourd'hui. Il y avait très très peu de matchs à la télévision. Je me souviens alors j'aurais pu regarder la Coupe du Monde de 66, mais on n'avait pas de télé, et même en 70 au Mexique, voilà, c'était un véritable énorme événement, parce qu'il n'y avait jamais eu autant de football à la télévision que cette année-là. La pratique faisait que le football, c'est celui qu'on jouait essentiellement. Et moi, j'ai le souvenir, notamment pendant les vacances scolaires, qu'on se retrouvait vers 9h du matin, on jouait jusqu'à midi, on rentrait rapidement déjeuner, et on se retrouvait à 13h30 jusqu'à 18h, 19h. Et on n'arrêtait pas de jouer. Il y avait cette passion avec les tristesses, les moments où on rate des choses, les moments d'euphorie, etc. Et tout ça crée des communautés éphémères. Et c'est ça qui est très beau. C'est l'apprentissage aussi, justement, de ces solidarités mobiles et de ces dispositifs d'équipe, comme ça, qui durent le temps d'une saison avec des crises et avec des bonheurs.
C'est pour prolonger cette magie que vous avez voulu devenir président d'un club, vous qui êtes au départ éditeur et qui professionnellement êtes loin du foot, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, qui sont bénévoles dans les clubs de sport, qui entraînent. Hein, Bernard, comment ?
Moi, j'avais arrêté le football après l'Italie. J'ai passé 5 ans en Italie où je faisais beaucoup de football. Et puis, quand je suis arrivé à Paris, c'est vrai que les conditions à l'époque étaient quand même assez mauvaises, avec des terrains stabilisés qui n'étaient pas très agréables. Et puis j'ai renoué avec le football à travers mon fils. Et voilà, je ne lui ai pas transmis, moi, la passion du football, puisque c'est sa mère qui lui a appris à faire les premières passes avec un ballon. Mais de fil en aiguille, il s'est intéressé au football, il a voulu jouer dans un club. Et j'ai pas voulu prendre une... Vous savez, la vie est parfois plus compliquée. C'est qu'on m'a demandé de prendre... cette présidence, j'en avais pas tellement envie, et au fond, j'avais sans doute raison. Et je l'ai quand même prise, et après, on se prend au jeu, et on a envie de faire les choses aussi bien que possible. Mais il est clair que c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices. Mais, par exemple, le mercredi après-midi, quand j'arrive sur le terrain et que je vois des petits-enfants et des petites filles qui s'exercent à cette passion, et quand je vois leur regard illuminé, je me dis que ça vaut quand même la peine.
Et il y a des petites filles au foot, puisqu'il y a des équipes de filles depuis.
Oui, alors ça c'est un développement relativement récent du football qui n'est pas automatique et qui n'est pas si facile. Je peux quand même dire que quand il y a des réunions de présidents de clubs amateurs, 80% des présidents se moquent complètement du football féminin. Ils peuvent pas le dire officiellement parce que il y a des obligations par rapport à ça. Mais c'est difficile. Mais petit à petit, c'est un sport qui prend sa réalité féminine. C'était un peu difficile au début parce que souvent, ce football féminin au début était joué par des joueuses qui étaient déjà, disons, des adolescentes ou post-adolescentes et des adultes, qui n'avaient donc pas acquis un certain nombre de réflexes qu'on acquiert essentiellement dans l'enfance. Mais maintenant, vous avez de plus en plus, même s'il y a une certaine discontinuité dans la pratique du football par les filles, vous avez de plus en plus de filles qui ont commencé à jouer à 6 ans, 7 ans, et qui ont un bagage technique tout à fait comparable à celui des garçons.
Et au foot, il y a aussi des filles adolescentes qui entraînent des plus jeunes joueurs. Je le sais parce que je connais très bien ce club. Cyril Nazareth, sur la pratique féminine du foot et comme elle se diffuse. Alors féminine, on parle vraiment des petites filles, hein, des poussins. Je ne sais pas si on féminise ce mot d'ailleurs.
C'est du coup une question très politique parce que si on laisse en place le regard biaisé sur les filles ne sont pas capables, les filles ne savent pas faire un contrôle, on en reste là. Et puis naturellement, les garçons sont meilleurs que les filles. Mais ce que dit monsieur le Président, c'est très intéressant. C'est quand il y a des politiques incitatives, si les acteurs ont un intérêt à s'investir dans ces filières-là, à proposer des meilleurs terrains pour les filles, parce que moi j'ai pu observer dans les clubs où j'ai enquêté, ou dans un premier temps, parce que j'ai commencé à enquêter il y a quelques années maintenant, les filles avaient les mauvais terrains, dans des mauvaises conditions, avec des entraîneurs pas forcément les mieux diplômés, les mieux expérimentés. Et puis quand il y a un intérêt à développer la filière féminine dans le club, et ben on donne des meilleures conditions, parce qu'il faut obtenir les résultats. Si cette filière-là est intéressante à avoir, il faut faire monter les équipes, et donc on donne les moyens aux gens d'être formés, et puis si on est formé dès le plus jeune âge, on a d'autant de chances d'avoir un bon bagage technique à l'adolescence, quoi. Donc c'est, je pense que c'est vraiment une question politique pour changer les mentalités et dire aux gens, regardez, c'est possible. Et puis là, avec l'Euro qui a eu l'été dernier, avec la formidable équipe de Hollande, enfin, je pense que les gens, ben, plus personne peut dire les filles ne savent pas jouer au football, quoi. Donc après, il y a la démonstration empirique sur le terrain, quoi.
Avec un sport qui est porté par la compétition, c'est ce qui se passe un petit peu au moment des grandes compétitions, les mondiaux, les euros, qui relancent l'intérêt des enfants. On sait qu'il y a des albums avec des images, tout ce qui va s'échanger dans les cours de récréation, cette médiatisation qui fait qu'on en parle. Et du côté des supporters, Nicolas Hourcade, puisque vous étudiez les supporters, là aussi il y a une féminisation. Je reviens sur le petit clip dont on a écouté un extrait de la Fédération Française de Foot. On montre des supportrices.
Oui, parce que c'est la même logique. Il y a une volonté du football français, puis même du football international, d'élargir à la fois ses pratiquants, en incluant une part importante de pratiquantes féminines. Et il y a des pays, on pense notamment souvent aux États-Unis, où la pratique du football est extrêmement répandue pour les jeunes filles. Mais il y a aussi la volonté de transformer le public en permettant d'avoir un public plus familial et beaucoup plus de jeunes filles et beaucoup plus de femmes. Alors c'est effectivement, comme ça a été rappelé, un projet politique aussi de transformation des publics du football qui amène à des réflexions sur qu'est-ce qu'un bon public. Et aujourd'hui, les autorités internationales ont une certaine vision d'un public un peu policé. Donc on a l'image d'Épinal de la famille qui ferait qu'il n'y aurait plus toutes les insultes, toutes les violences qu'il peut y avoir autour du football. Donc par rapport à cette image de « on attire les familles dans le stade », moi ça me pose deux problèmes. D'abord parce que c'est une manière de dire en creux qu'on veut plus de certains publics. Alors ceux qui sont violents et racistes, ça je comprends, mais ça veut dire aussi qu'on veut plus de certains publics populaires. Par exemple, en Angleterre, ils ont été largement évincés des stades.
Avec le prix des billets avec aussi, le prix des billets. Ouais. Qui pose problème pour emmener des enfants.
Tout à fait. Et aussi l'idée qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas aller en famille au stade, alors qu'en fait, on va en famille au stade. Et les phénomènes de transmission, moi, je les ai étudiés auprès des supporters, et c'est assez intéressant. En fait, vous avez deux grandes voies d'accès au stade ou au spectacle footballistique à la télé. Ça vient soit à l'adolescence avec les amis, soit les amis du collège, du lycée, soit les amis du club de foot ou du club sportif, mais ça vient aussi énormément par la famille. Et donc, du coup, ça peut toucher aussi les filles, puisque pendant longtemps, le football a été un sport masculin, mais les pères ont parfois aussi envie de transmettre cette passion à leurs filles, et donc du coup ça devient un phénomène qui touche les deux genres et qui touche largement la population. Et cette transmission est extrêmement intéressante parce qu'en fait il se joue des choses qui sont particulièrement profondes et qui marquent les enfants. C'est-à-dire qu'on disait 70, la première Coupe du Monde télévisée, pourquoi le France-Allemagne de 1982 où la France perd de manière dramatique contre l'Allemagne, pourquoi il a tellement marqué la population française? Parce qu'en 1958, quand la France finit troisième au mondial en Suède, on le voit pas trop, parce que la télé est pas très répandue. Par contre, en 82, tout le monde le voit. Et c'est un événement marquant qui marque la mémoire familiale. C'est-à-dire que vous vous souvenez d'où vous l'avez vu, ce match, et avec qui. Et finalement, l'attachement qu'on peut avoir pour une équipe nationale ou pour un club s'explique aussi par les liens familiaux. C'est-à-dire qu'il y a des matchs qu'on voit, qu'on a vécu, qu'on a partagé. Vous avez des familles où le père ou le grand-père dit pas « je t'aime » à son fils, sa fille ou son petit-fils ou sa petite-fille tous les jours. Par contre, ce soir, t'as le droit de veiller, tu regardes le match avec papa, avec maman, avec toute la famille. Et c'est un moment merveilleux que beaucoup de supporters racontent après coup. Il y a aussi la première fois où on a le droit d'aller au stade. On t'amène au stade dans un espace où il y a plein de monde, plein de couleurs. Souvent c'est tard, t'as l'impression de vivre une expérience fantastique. T'es comme un grand finalement. Et dans tous les témoignages que j'ai recueillis, beaucoup de supporters aujourd'hui plus âgés parlent avec émerveillement de cette première fois où ils vont au stade et le relient systématiquement aux gens avec lesquels ils y sont allés. Et donc, en fait, quand aujourd'hui on voit que, par exemple, un club va changer de stade, il y a tout un ensemble d'articles journalistiques, mais pourquoi les supporters sont tellement attachés à leur stade? Parce qu'il y a une histoire, du club, mais aussi parce qu'il y a une histoire familiale. Le stade où j'allais depuis 50 ans, c'est le stade où mon père m'a amené, c'est le stade où j'ai amené mon fils ou ma fille. Et donc, de la même manière que vous avez très bien décrit la transmission au niveau de la pratique, et que Eric Cantona, c'est ce qu'Eric Cantona a évoqué, il y a aussi une transmission du spectacle sportif, du goût pour le spectacle sportif, soit à la télé, soit au stade.
Avec les odeurs spécifiques au stade, ce son si particulier, et puis l'amour pour une équipe. Alors moi, je me souviens de cet ouvrage, de ce livre de Nick Hornby qui s'appelle « Carton
pitch.
Jaune ».
Oui. Ne le traduisons pas en français, parce que la traduction française est extrêmement intéressante. Ce livre s'appelle « Fever Pitch ». Donc, traduisons-le comme on veut, mais la fièvre du ballon, la fièvre du terrain, la fièvre du stade, enfin, comme vous voulez. Mais « Carton jaune », pourquoi on le traduit comme ça? Ça marque la manière dont le football est perçu en France. Jusqu'en 98 à peu près, il n'y a pas de légitimité culturelle du football. Donc quelqu'un qui est passionné pour le football, il ne peut avoir qu'un carton jaune parce que finalement, ce n'est pas un type totalement normal. Et le bouquin de Nick Hornby, il raconte quoi? Il raconte son lien à un club, Arsenal, qui à l'époque n'était pas du tout flamboyant comme on le connaît aujourd'hui en France.
Ah oui,
grâce à Arsène Wenger, il perd tout le temps, il joue de manière brutale et il montre l'adhésion à ce club qui finalement est un lien intime très fort pour lui, et finalement sa constance dans le suivi d'Arsenal s'explique avant tout par son histoire personnelle, bien plus que par le style de jeu rugueux de l'équipe.
Bernard, comment il y a une légitimation, alors est-ce qu'elle daterait d'ailleurs de 98, de l'amour du foot, du fait d'être supporter, qui s'est opéré en France, peut-être plus tardivement qu'ailleurs? Et deuxième question, est-ce que c'est un lieu de brassage social? Est-ce qu'un club comme le PUC, dont vous dirigez la section football, voit différentes populations de Paris et des alentours se mélanger?
C'est de grosses questions, hein.
Oui.
Brassage social, indéniablement. Après ce brassage, il connaît des périodes euphoriques. On se souvient effectivement de 98, Black Blanc Beur. On se souvient aussi de 2010, où les mêmes ingrédients produisent quelque chose d'explosif. Où Black, Blanc et Beur désignent des espèces de clans qui ne fonctionnent plus du tout. Moi, ce que je constate en France, c'est que effectivement, c'est un lieu de mixité. Mais si vous allez un jour à l'entrée d'une réunion de la Fédération française de football, c'est-à-dire ceux qui doivent représenter en principe les réalités du terrain, vous verrez qu'il n'y aura que des blancs. Ce qui est quand même un énorme problème. Oui, comme moi, mais je veux dire, à un moment donné, je crois qu'il doit y avoir une représentation un peu plus juste. Et il y a encore beaucoup de blocages. Beaucoup d'entraîneurs vous disent qu'il y a un plafond de verre et que pour arriver à certains diplômes, ben, c'est quand même très difficile. Donc il y a encore des effets de mainmise. Maintenant, pour ce qui est de la mauvaise réputation dans les milieux intellectuels du football, parce que c'est vrai que dans les milieux intellectuels, il est chic de s'intéresser au rugby, beaucoup moins de s'intéresser au football. Moi, j'ai toujours pris ça avec un sourire. D'abord parce que c'est un phénomène quand même essentiellement français. Quand vous allez en Italie, il y a une intellectualité du discours sur le football qui ne fait pas débat. Bien sûr que, si vous voulez, il y a aussi de la violence dans le milieu du football. Le public qu'on a transformé, on est un peu passé du sport au spectacle, hein, quand même ces dernières années. Ce public, certains en ont la nostalgie. Il y a un livre absolument extraordinaire, justement sur cette question de l'intellectuel par rapport au football. C'est le livre de Bill Bufford qui s'appelle « Parmi les hooligans ». Qui est un livre. Bill Bufford était le directeur de la revue Granta, revue très prestigieuse, très littéraire, et un jour, un samedi, en début d'après-midi, il revient d'une conférence qu'il a donnée, il est dans une petite ville d'Angleterre, et il voit passer un train qui s'arrête en gare sans ouvrir ses portes, et là, il voit un déchaînement de sauvagerie, disons, des supporters de je ne sais plus quelle équipe. Et il est avec sa serviette, comme ça, seul, sur le quai de gare, il assiste stupéfait à ce spectacle, et eh bien, il va être à la fois fasciné, il va s'y intéresser, et il va entrer dans ce groupe de supporters, jusqu'à participer, jusqu'à se surprendre à participer à un certain nombre d'actions dans le cadre de déplacements internationaux de ces groupes de supporters. Et je crois que voilà, le football, il faut le prendre dans son ensemble. On ne peut pas juste s'intéresser à la tribune d'honneur du PSG dans les grands matchs de gala. Je veux dire, essentiellement, je pense que c'est un sport très populaire, avec les excès que ça peut comporter.
Et on est très loin de la tribune d'honneur du PSG dans cette émission, puisqu'on parle plutôt de la pratique des enfants et des enfants des milieux populaires. Cyril Nazareth, dans en Seine-Saint-Denis, le département que vous avez particulièrement étudié, là, le foot est très pratiqué, encore plus pratiqué, c'est le sport roi.
Oui, le sport roi, avec tout ce que ça implique en termes de concurrence, c'est-à-dire que on a souvent l'image qu'on accueille tout le monde dans les clubs de football. Et la cour d'école fait qu'on a envie de faire comme les petits copains. Moi, j'ai surtout travaillé sur les garçons et au fil des années, j'ai vu les filles arriver dans le club, mais j'étais spécifiquement sur des équipes de garçons. Et puis, on se fait évincer, en fait. Plus on vieillit, moins il y a de place, moins il y a d'équipes, plus aussi on a des déconvenues. Et ça, j'ai pu l'observer régulièrement, des gamins qui abandonnent, qui baissent les bras, qui s'auto-excluent avant d'être vraiment exclus ou mis de côté d'une saison à l'autre. Et donc ce système de hiérarchie et de concurrence, on pourrait un petit peu faire la comparaison avec l'espace scolaire, quoi, où il y a les filières d'élite, les filières d'excellence, le déclassement, l'angoisse des parents par rapport à une réussite qui n'arrive pas ou une réussite qui nous échappe. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire que, en Seine-Saint-Denis y compris, le club de football, c'est un peu le domaine parascolaire. On doit obéir à l'entraîneur, à l'éducateur, comme on dit dans le jargon, lui serrer la main, le respecter, et on doit tout faire en fait pour répondre aux attentes de l'éducateur.
Et on va prolonger cette dimension éducative, mais après la page d'actualité de Marie-Caroline Missire. Nos actualités en partenariat avec le magazine L'Étudiant et Marie-Caroline, demain vous passez encore le bac.
Et oui Louise, et ça fait 10 ans que ça dure en tant que journaliste éducation. Donc cela n'aura échappé à personne, c'est le coup d'envoi du baccalauréat demain matin avec son lot de people commentant les épreuves de philo, de fuite, de buzz sur des erreurs dans les sujets, de copies égarées et de micros tendus à des ados anxieux voire hagards à la sortie des centres d'examen. Mais cette année, le bac a comme un petit parfum de nostalgie. Dans quelques temps, ce totem national se conjuguera à l'imparfait. Plus de filières, un nombre très réduit d'épreuves écrites, beaucoup de contrôle continu et un grand oral à la Sciences Po. Voilà ce qui attend les futurs élèves de terminale et c'est pour 2021. Réputée très difficile, voire impossible, cette réforme que je viens de vous décrire est passée comme une lettre à la poste, toute l'attention médiatique et l'angoisse des familles se déportant sur une autre réforme, Parcoursup.
Et ce sont justement les traditionnels chiffres du bac présentés mardi dernier par le ministère qui illustrent le mieux cette polarisation sur l'entrée dans l'enseignement supérieur.
Et c'est un record, a rappelé Jean-Marc Huard, le directeur général de l'enseignement scolaire lors de cette conférence de presse. Le nombre de candidats au bac représente cette année 753 148 personnes, c'est énorme. Un chiffre en hausse de 5% par rapport à l'année précédente. Au total, c'est un peu plus de 36 000 candidats supplémentaires. Comment expliquer cette augmentation? Eh bien, le DGESCO, puisque c'est son petit nom, nous rappelle que cela s'explique par le baby-boom de l'an 2000 et une élévation du taux d'accès au baccalauréat. Alors, parmi les bacs qui sont le plus concernés par cette hausse, il y a le bac technologique, qui dépasse les 10%, avec 15 000 candidats en plus. On a aussi une augmentation du bac général, plus 23 000 candidats de plus qu'en 2017. Et puis, à signaler quand même, 2 000 candidats de moins pour le bac professionnel.
Mais il y a un hic, et ce hic, il n'y a pas besoin d'avoir le bac pour le comprendre.
Oui, parce que 36 000 candidats en plus, il faut quand même souligner qu'ils sont tous susceptibles de poursuivre leurs études dans le supérieur. Mais la plateforme d'inscription dans le supérieur dont j'ai parlé, Parcoursup, ne propose, elle, que 19 700 places exactement.
De plus, c'est ballot.
C'est ballot. Alors, des places supplémentaires vont être ouvertes dans les prochaines semaines, a promis le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais en attendant, il manque quelques 15 000 places, donc, parce qu'on sait calculer, on a notre bac dans le supérieur. Rappelons tout de même que toutes les formations, et notamment les formations payantes, ne sont pas sur Parcoursup.
Est-ce que ça suffira? Et en plus, on sort du service public, évidemment. Allez, on passe à une information, un fantasme, me dites-vous, Marie-Caroline. Cette information est passée inaperçue, mais on peut le comprendre. Elle concerne les inspections générales.
Alors j'y viens, notre histoire de fantasme. Ces deux vieilles dames, donc les inspections générales, deux vieilles dames de l'éducation nationale, l'IGEN et l'IGAENR, l'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, ouf, vont fusionner, figurez-vous. Et vous ne vous en rendez peut-être pas bien compte, chers auditeurs, mais c'est un fantasme de hauts fonctionnaires qui prend ici réalité. Pourquoi deux inspections, me direz-vous? Alors depuis une quinzaine d'années, la question se pose avec de plus en plus d'insistance dans les couloirs du ministère. La première inspection, l'IGEN donc, incarne la hiérarchie pédagogique et disciplinaire de l'éducation nationale. La seconde, l'IGAENR, a comme administration, incarne elle la hiérarchie administrative. Mais au fil des ans, la première, l'IGEN, est devenue quasi obsolète. Les programmes ne sont plus faits par cette inspection, tout comme l'évaluation des enseignants. Et l'autre a su se rendre indispensable. L'IGAENR a par exemple accompagné la loi Pécresse sur l'autonomie des universités. Elle a audité des établissements du supérieur et s'est résolument tournée vers le supérieur et des problématiques transversales de pilotage de notre système éducatif. Un éminent observateur de l'éducation, l'ancien recteur et ancien directeur Alain Boissineau, nous confie avoir voulu fusionner ces inspections générales dès 2003. Mais, raconte-t-il, il s'est heurté à l'époque au puissant lobby des inspections, avec l'une de ses incarnations les plus abouties, le ministre Xavier Darcos, lui-même inspecteur général. Mais nous sommes maintenant en 2018 et cette fusion est programmée pour 2019 par le ministre Jean-Michel Blanquer, comme cela a été annoncé lors d'un séminaire le 6 juin dernier. Ce sera Jean-Richard Sisterman, le chef de l'IGAENR, on adore les sigles dans cette émission,
surtout vous,
qui sera chargé de conduire la réforme, et Caroline Pascal, la toute nouvelle doyenne de l'inspection générale, qui pilotera in fine, ce corps unique.
Et on rappelle que c'est une très importante réforme, tout comme cette mesure adoptée jeudi soir à l'Assemblée nationale, un des volets du projet de loi pour la liberté de choisir sa vie professionnelle. Ça va concerner les stages, même les stages de troisième, Marie-Caroline.
Je vais vous expliquer tout ça, mais je cite quand même l'article qui est très très débattu et qui a été très très débattu cette nuit-là, l'article 10 de ce projet de loi. Il prévoit qu'une partie de la compétence orientation est attribuée aux régions désormais, avec le transfert des DRONICEP, encore un drôle de mot, les directions régionales de l'ONICEP, vous savez cet office qui s'occupe de l'orientation au niveau national. Donc ces directions vont être transférés aux conseils régionaux. Ce projet de loi prévoit également l'intégration des centres d'information et d'orientation aux établissements scolaires, donc ça fait un petit peu grogner. Et puis un amendement a été adopté cette nuit-là. Fini donc l'unique stage en entreprise en classe de troisième. On a tous vu passer des petits troisièmes dans nos différents services, dans notre vie professionnelle. Un autre changement, donc, les élèves pourront désormais s'immerger en milieu professionnel, mais un seul jour par année scolaire, en quatrième, troisième, première et en terminale, en plus de ce stage que nous connaissons tous. Et ce stage supplémentaire ne sera pas obligatoire. Il a un objectif, selon le gouvernement, permettre aux enfants de découvrir un peu plus le monde du travail, une vieille marotte. Le chef d'établissement devra donner son accord, car cette journée remplacera un jour de classe. Donc un dispositif qui a été aussitôt critiqué à droite comme à gauche, puisque certains craignent que les élèves sèchent les cours plutôt que d'aller en entreprise. Mais ces commentateurs ont vraiment mauvais esprit, je trouve.
Oui, puis on a plein plein de jours disponibles pour plein plein d'élèves au mois de juin, enfin, me semble-t-il. Et puis un dernier mot sur une revue, la revue Diversité, consacrée ce trimestre à la recherche en éducation, avec plein d'articles passionnant, loin sur la recherche qui ne doit pas dire aux praticiens ce qu'ils doivent faire. Donc une revue assez critique, on le comprendra. Et c'est publié par les éditions Canopée du ministère de l'Éducation nationale.
J'ai joué au foot pendant 15 ans, moi. J'ai un bon niveau. Malheureusement, les blessures ont fait que je ne pouvais plus jouer. Maintenant, c'est mon fils qui est là, à la relève, en espérant qu'il ait un bon niveau. On verra ça plus tard. Là, pour l'instant, il est petit, donc on attend, on voit. Il est un peu timide, il se débrouille pas trop mal, il a du jeu, mais bon, il est un peu timide. Bon, je lui explique certaines choses, mais bon, ça a du mal à rentrer. Mais Mais il se débrouille bien, ça va, il a... ça va. C'est un gaucher en plus, donc ça va. Beaucoup de grands joueurs sont des gauchers, beaucoup de gauchers. C'est rare les gauchers, il y a beaucoup de droitiers dans le football. Un gaucher, c'est une qualité.
C'est vous son entraîneur ou il a un entraîneur ?
Non, non, moi je suis le père. Moi je suis son père. Après, les entraîneurs, ils ont leur mot à dire, et c'est eux qui entraînent. Moi, à la maison, c'est moi qui l'entraîne. Après, chacun son rôle.
La famille, on est les tontons, le papa, sont tous des footeux. Les cousins aussi. Et le grand-père aussi a fait du foot. Je trouve que c'est un peu excessif. Enfin, au niveau du foot, hein, je trouve que c'est très excessif. Et c'est pour ça qu'il y a même plus de mamans qui viennent maintenant. Parce que quand on voit les papas regarder les matchs de foot et qu'ils sont pas fair play, on va dire, on préfère être là, les mamans. Généralement, il y aura les papas qui voient leur fils peiner sur le terrain, c'est catastrophe. Il les pousse, hein. J'ai vu. Des grosses engueulades. Après, le fiston. Pour les papas, c'est l'arbitre, il n'a pas fait ceci, l'autre, il n'a pas fait cela, et faut que son fils soit le plus fort, le plus beau, le plus costaud, et qu'il marque, quoi. Faut surtout pas oublier, c'est que ce sont des enfants, ils sont là pour s'amuser, quoi. Ils sont pas là pour spécialement gagner. C'est pas des futurs Zidane.
Et oui, pas tous de futurs Zidane. Vous écoutez Rue des Écoles, nous parlons éducation et football. On vient d'écouter un extrait d'un reportage qui s'appelle « Rien à foutre » qui a été diffusé pendant l'Euro 2016 dans Les Pieds sur Terre, réalisé par Alexandra Malka, tourné par Bar McCoy, donc des enfants et surtout des parents qui parlent de foot. C'est pas si facile hein, d'avoir ses parents dans les tribunes qui vous regardent. Bernard, comment sur ces extrait de papa et de maman.
C'est quelque chose d'ambigu parce que d'un côté on demande beaucoup aux parents en termes de déplacement des enfants, déplacement des équipes, donc on a besoin d'eux, et d'un autre côté force est de constater que souvent ils sont une source de problèmes parce que le témoignage de cette mère est très juste. C'est vrai que bon, il y a la part de rêve social, évidemment. Je veux dire, beaucoup se disent, ben, finalement, mon enfant va peut-être réussir dans le football et résoudre tous nos problèmes. Cette part de rêve, on peut pas l'interdire. Mais il est clair que ça suscite beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés, surtout, disons, vers l'âge de 12 ans où la possibilité éventuellement d'intégrer Clairefontaine se présente. Et à ce moment-là, on voit beaucoup de rivalités, des parents qui parfois surévaluent leur enfant. Moi, la leçon que je tire au bout d'un certain nombre d'années, c'est que les enfants sont plus lucides que les parents.
Intéressant, cette dimension du rêve aussi, et pas seulement de celui des enfants, du rêve de réussite à travers le foot, elle est très présente. Et les petits garçons, peut-être aussi des petites filles qui veulent devenir joueurs professionnels, c'est extrêmement courant. Cyril Nazareth, c'est aussi ce que vous avez rencontré en enquêtant dans des clubs.
Oui, exactement. Et puis l'âge de 12 ans, vraiment pour moi, était un tournant dans la trajectoire, dans le parcours, pour parler simplement des jeunes joueurs, puisque c'est le moment en fait où on va passer, c'est la période où on passe du foot sur petit terrain, le foot enfantin à l'école de foot, des U13, aux U14, au football à 11. Et c'est dans cette période-là que les clubs de l'élite viennent faire leur marché, ou les institutions d'élite comme donc l'INF Clairefontaine et les pôles espoirs dans les Crêpes régionaux, qui sont, on va dire, les grandes écoles, mais en dessous du niveau de Clairefontaine, viennent faire leur sélection. Le brassage se fait à ce moment-là. Et ces institutions donc, sont là pour accueillir l'élite. Et à partir de là, les parents qui sont présents, c'est un investissement, c'est du temps, c'est de l'argent qui est passé sur le bord du terrain. Et du coup, le football devient un espace où on voit des stratégies parentales de réussite. On fait en sorte que son gamin accède au club qui a des équipes au top régional, ou quand ensuite on passe en U17, U19, là il y a des équipes de niveau national pour les adolescents, et donc on va faire en sorte que son gamin puisse se déplacer à travers l'Île-de-France pour accéder à la bonne équipe, ou en tout cas aller se présenter au mois de juin pour intégrer les équipes la saison suivante. Donc ces stratégies-là, elles révèlent, je ne sais pas si c'est un rêve social, mais en tout cas des ambitions, des buts de réussite qui sont très importants du coup à partir du moment où il y a beaucoup de temps qui est passé et dans l'espace du football il y a les logiques internes aussi, c'est-à-dire que on est en comparaison avec d'autres joueurs, il y a d'autres parents qui sont là aussi, il y a les entraîneurs, le père là avait le bon rôle de dire l'entraîneur a aussi son mot à dire, mais en fait c'est les entraîneurs donc à cette période-là de la formation, on appelle ça les éducateurs de football, font tout pour garder leur espace de décision et maintenir les parents à l'écart, tout en maintenant des relations cordiales. Mais le but premier des éducateurs, c'est bon, les parents nous aident, c'est aussi une ressource, mais attention, il faut que cette frontière ne soit pas dépassée. C'est nous qui sélectionnons le 11 de départ, les remplaçants, l'équipe A, l'équipe B, et il faut maintenir les parents de l'autre côté de la main courante, parce que très souvent, ils ne sont pas dans les tribunes, mais juste là, au bord du terrain, à regarder ce qui se passe.
Bah, comme un entraîneur, en fait. Cyril Nazareth, cette tension en fait, du football que crée cette ambition pour certains d'être sélectionnés, finalement, elle finit par peser sur tout le monde. Ce n'est pas très détendu, et je ne sais pas si c'est très éducatif de jouer dans un environnement où l'objectif pour beaucoup d'enfants, c'est d'être sélectionnés, triés, quid des autres, ceux qui voudraient jouer pour jouer, pour s'amuser.
C'est un sport, donc c'est un objectif de performance, de compétition, et les entraîneurs le disent aussi, on ne fait pas de la garderie, on est là pour prendre les meilleurs, et en tout cas dans les clubs que j'ai observés qui ont des ambitions, donc c'était des clubs dont les équipes premières sont au niveau national et ont des ambitions professionnelles, donc ça se répercute sur les jeunes, puisque je ne sais pas si c'est un fantasme, mais en tout cas l'objectif des dirigeants, c'est aussi d'avoir derrière une école de foot qui sort des jeunes bien formés, des équipes de jeunes qui sont au niveau national, donc qui affrontent les équipes de jeunes des clubs professionnels, donc il y a cette logique-là de hiérarchie et d'excellence qui se répercute sur tout le monde, et donc tous les gens qui se retrouvent là sont dans cette logique d'excellence et ça crée forcément des éliminés, des perdants, quoi. Donc c'est un peu l'école de la vie au sens où
dure, hein.
C'est-à-dire que voilà, c'est pas les méthodes nouvelles d'éducation, c'est la compétition.
Ça peut détourner aussi des enfants du foot, parce que à quoi bon faire un sport dans lequel on sera considéré comme moins bon, pas valable, ou est-ce qu'il y a peut-être une autre façon aussi de faire du foot en club et collectivement, Bernard Coman?
Nous, on a toujours eu pour souci de faire coexister à la fois une partie de compétition et une partie de loisir, parce que ça demeure un jeu pour beaucoup d'enfants. Et les enfants qu'on a accueillis, on ne va pas les rejeter tout à coup parce qu'ils n'auraient pas un bon niveau. Donc on a toujours voulu avoir ces deux aspects. Pour ce qui est évidemment du côté compétition, qui est important, c'est compliqué parce qu'il y a des intérêts financiers considérables qui sont en jeu. Il y a l'intérêt des familles, des parents. Mais il faut dire aux parents qu'aucun parent n'a jamais réussi à faire de son enfant un professionnel. C'est un milieu, il y a des éducateurs, il y a des observateurs, et puis il y a surtout des joueurs et les qualités des joueurs. Mais les parents ne forcent jamais le destin. Alors il faut effectivement les tenir à distance. Vous avez aussi des clubs prédateurs, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a un système d'indemnisation de la formation par les clubs qui part d'un bon principe, c'est-à-dire que vous avez consacré du temps d'éducation à des enfants, quand ils deviennent professionnels, il y a une rétroversion d'une certaine somme au club qui l'ont formé. Mais cette rétroversion, elle repose sur 3 années. Et donc, pourquoi 12 ans est très important et pourquoi les clubs prédateurs viennent essayer de récupérer les bons joueurs de 12 ans? Parce que s'ils les font jouer dans leur 13e et leur 14e année, eh bien, plus tard, si ces joueurs deviennent professionnels, ils vont en retirer des bénéfices. Et il y a des clubs qui construisent leur budget là-dessus.
Et du coup, la question qu'on peut se poser en tant qu'observateur et aussi en tant que parent, c'est est-ce que le football est un milieu bienveillant pour les enfants, bienveillant en général? On sait qu'il y a eu des scandales en Angleterre aussi de pédophilie, parce que l'enfant dans le foot, il est pas forcément bien surveillé par ses parents, que les clubs peuvent fonctionner avec peu de surveillance, beaucoup d'autonomie. Et je me suis demandé si finalement, les enfants n'étaient pas dans un milieu trop dur, aussi parce qu'il y a de la violence et tout ce dont vous avez parlé qui concerne les relations financières. On est toujours un peu trop jeune pour se retrouver dans ce genre de choses.
Bon, Bernard, c'est quoi? C'est un enfant sur 10 000 ou 20 000 qui va devenir professionnel. Donc évidemment, ça aimante les rêves, mais il faut dire aux parents qu'il y a quand même très très peu de chances d'y arriver. Il faut rappeler la dimension du jeu, la dimension d'épanouissement. Je crois que ce qui est très important aussi, c'est de former des citoyens. Et nos éducateurs portent bien leur nom, parce que il est clair qu'ils ont une écoute des enfants très différente de celle même que peuvent avoir les parents. Et par leur passion pour le sport, eh bien, on arrive à les éduquer à un certain nombre de principes de la vie collective.
Et quand
par exemple,
on met son enfant, quand on l'inscrit dans un club de foot, on est sûr qu'il est entre les mains d'adultes responsables, bien formés.
Vous n'êtes jamais sûr, mais d'année en année, vous corrigez ce qui doit l'être. Vous vous séparez de certains éducateurs parce qu'ils n'ont pas donné tous les résultats que vous espériez. Mais une des grandes difficultés, c'est que ces éducateurs puissent travailler de façon sereine. C'est pour ça qu'on écarte les parents, mais aussi pour protéger les enfants. Parce que imaginez-vous ce qui se passe dans la tête d'un enfant quand il entend son père lui donner une consigne qui est à l'opposé de celle que lui a donnée son entraîneur dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Il est complètement écartelé, et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Donc, l'éducation des parents, on peut la faire jusqu'à un certain point, mais ça passe par des réunions, et il faut les rappeler à un devoir de réserve, parce que je crois qu'un enfant progresse et est heureux dans le jeu si il respecte simplement son éducateur, les autres joueurs, et s'il ne s'inscrit pas dans un processus de rivalité avec toute personne qui pourrait lui faire de l'ombre, et de réconfort narcissique que lui apporteraient ses parents par rapport à telle ou telle remarque de l'éducateur qui éventuellement le sort à la mi-temps. Et moi, j'entends souvent des parents qui me disent « mais c'est le meilleur de son équipe et on le sort à la mi-temps ». Ben oui, on le sort à la mi-temps.
Mais on entend que le football, c'est très conflictuel, et ça reste aussi un petit peu la réputation de ce sport, conflictuel entre les supporters, conflictuel sur le terrain, où il y a beaucoup de fautes. On parle souvent de bluff de la part des joueurs. Je suis désolée pour toutes ces perles que j'enfile. Il y a un certain nombre de clichés, Nicolas Hourcade, mais c'est vrai que le rugby, par exemple, réussit à avoir une très bonne réputation. Le football, un petit peu moins. Il y a beaucoup de colère autour du football.
Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur un point qui est essentiel, qui est celui du brassage social. Parce qu'effectivement, le brassage social peut se faire dans certains clubs, mais pas forcément, parce qu'il y a parfois de la ségrégation. Certains clubs ne recrutent que certains types de publics, et d'autres sélectionnent aussi leur public. Et si on revient sur les tribunes, il y a un phénomène qui est très intéressant, c'est qu'à partir des années 80, dans les stades français, les tribunes derrière les buts, là où les places sont les moins chères, sont devenues des tribunes juveniles. Christian Montberger, qui est un des premiers ethnologues à avoir travaillé sur le sujet, a décrit ça de manière très simple. Avant, on appelait ces tribunes les populaires, parce que c'était les places les moins chères, et à partir des années 80, il aurait été légitime de les appeler les juvéniles. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, là, il y a un phénomène d'agrégation de jeunes, donc un peu plus âgés par rapport à ceux dont on parlait, à partir de 15-16 ans, qui vont tous aller dans ces tribunes-là pour soutenir leur équipe. Et là, pour le coup, il y a un vrai brassage social, puisqu'il y a des jeunes des catégories populaires, des catégories moyennes, certains jeunes aussi des catégories supérieures, qui vont s'agréger dans cet espace-là et construire leur forme autonome de supporterisme, de soutien à l'équipe. Et on voit là un enjeu qui est extrêmement fort pour le football actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football cherche à se polisser en essayant de contrôler ces tribunes juvéniles. Et ce qui se passe dans les stades autour, par exemple, d'un objet qui est le fumigène, un objet qu'on retrouve dans la campagne de pub de la FFF et qui est un objet pourtant interdit, des jeunes disent « nous, on a le droit de les allumer parce que finalement, c'est une pratique festive ». Et les autorités leur disent « non, c'est interdit ». Et au-delà de cet objet purement symbolique, il y a quand même un conflit entre âges où, en gros, les personnes plus âgées disent aux jeunes comment se comporter dans les tribunes. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, et ça rejoint finalement la question que vous posiez sur la conflictualité. Autour de la pratique et du spectacle du football, on trouve des valeurs extrêmement différentes. On trouve le partage, le fair-play, la convivialité, mais on trouve aussi la confrontation, puisque c'est une compétition, la violence, etc. Et pour finir sur l'opposition foot-rugby, il y a quand même pas mal de clichés, mais aussi quelques vérités. C'est-à-dire que dans le rugby, je suis originaire du Sud-Ouest, il y a quand même pas mal de violence sur le terrain, violence en dehors du terrain, mais il y a un contrôle social extrêmement fort qui fait que quand il y a des incidents, on cherche à les étouffer, que ça ne se sache pas. Et en plus, c'est un sport qui n'a pas le même nombre de pratiquants que le football. Mais il y a aussi des phénomènes d'éviction sociale, c'est-à-dire que certaines populations ne mettent pas leur enfant au football pour le mettre dans d'autres sports,
le rugby par exemple, parce qu'ils se disent il va être avec des enfants de la même catégorie sociale que lui, et donc il y a des enjeux aussi pour le rugby d'être capable de s'ouvrir à d'autres types de publics. C'est du travail qui est fait parfois en Seine-Saint-Denis, qui est fait dans le sud de Paris aussi, de certains clubs, pour permettre à des jeunes de jouer au rugby et de justement se confronter à d'autres couches sociales, parce que l'une des difficultés de certains clubs de football, là on revient sur la pratique, c'est qu'il y a une homogénéité sociale très forte dans certains quartiers.
Et Cyril Nazareth, pour revenir sur la dimension violente, on a parlé des tribunes, mais il y a aussi le terrain où il y a des accrochages, ou alors peut-être que je suis trop impressionnable, hein, mais c'est ce qu'on voit chez les petits, mais aussi sur les terrains dans le foot professionnel. On tire le maillot, on fait semblant d'être blessé aussi, des trucs comme ça. Cette dimension-là, elle reste forte dans ce jeu-là, spécialement. C'est peut-être ce qui en fait une dimension ludique aussi.
Oui, il y a la dimension ludique, mais au bout d'un moment, on peut entendre les entraîneurs reprocher à leurs joueurs, quand on arrive dans les catégories où les jeunes ont 16, 17 ans, reprocher à leurs joueurs d'être, de se faire avoir comme des enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être un peu roublard, être vicieux, s'attendre aux petits coups en douce de l'adversaire, ou mettre la semelle, ou pas répondre aux provocations, etc. Et ça, c'est un apprentissage de la conflictualité aussi. C'est-à-dire qu'il faut être roublard jusqu'à un certain point, mais pas être complètement idiot et du coup se faire sortir par l'arbitre. Donc il y a un peu un jeu autour d'une frontière à ne pas dépasser entre du coup l'affrontement réglé sur le terrain et la dérive totale qui serait la baston ou la bagarre générale. Voilà. Et parfois, on a du mal à maîtriser ses affects quand il y a ces enjeux de si on ne gagne pas ce match-là, on ne va pas monter dans la division supérieure, ou si on perd ce match-là, on va descendre. Et là, la frontière est beaucoup plus difficile à gérer. Après, sur les... Et c'est là qu'on voit que c'est les enjeux de rêve, de réussite sociale, etc., sont très présents, mais ils sont très souvent, je pense, en grande partie inconscients, puisqu'après, au quotidien, les enjeux s'expriment en termes de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est très douloureux d'être reconnu ou pointé, en tout cas, comme défaillant le jour où c'est très important de manquer son geste au mauvais moment, et d'un seul coup, d'être symboliquement condamné par la communauté qui est autour du terrain, c'est-à-dire le club. Ça peut être très douloureux, et la violence peut se traduire par des mauvaises réactions sur ce terrain-là aussi, sans être tout de suite sur les questions de « il va rater sa vie » ou « il finira jamais professionnel ». Voilà.
Bernard, comment très rapidement, c'est cette dimension aussi autour de la limite à passer, pas passer, jouer avec, qui fait la séduction du football ?
Mais il y a de la violence, bien sûr. Il y a de la violence sur le terrain, il y a des contacts, il y a des blessures. Les blessures, ça fait aussi partie de l'éducation. Moi, par exemple, je considère que je suis devenu écrivain dans les vestiaires de football. Parce que, justement, vous entrez dans 11 discours, 14 discours très différents, des trajectoires, des destins très différents, et vous arrivez dans le vestiaire et vous êtes ensemble. Mais en même temps, vous êtes dans cette ouverture à des gens qui sont très très différents de vous et que la vie ne vous aurait jamais fait croiser sans ça. Et moi, je dois énormément au football, avec ses défauts, avec ses violences, avec ses dérives. Mais moi, j'y vois un lieu d'extraordinaire plaisir et de grandes potentialités de formation et d'éducation.
Et je vous souhaite une excellente Coupe du Monde à tous les trois, à tous d'ailleurs. Merci Bernard Coman, Cyril Nazareth, Nicolas Hourcade. On passe à la toute dernière Merci. Partie de l'émission, la leçon de choses de Sophie Bobert.
Se ali cresci aqui, eu sou assim, eu não vou mentir. Meu sentimento voa no vento, não tem tempo e não tem lugar. Se alguém me dizer que o meu sangue perdeu seu autêntico, não sou o mesmo. Eu digo que isso não importa, porque cidadão do mundo todos são. E só o sol sempre soube quem sou. Só nessa estrada eu não sei pra onde eu vou. Você que eu nunca sinto meu lamento. O vento não levar teu sofrimento. E só o sol sempre soube quem sou. Só nessa estrada eu não sei pra onde eu vou. Você que eu nunca sinto meu lamento. O vento não levar teu sofrimento.
Et nous venons d'entendre Lucia de Carvalho, une chanteuse. Quatre pays, l'Angola où elle est née, le Portugal où elle a migré, et puis la France où elle sera adoptée à 12 ans. Et enfin, le Brésil pour retrouver sa langue et ses racines à travers la musique. Lucia de Carvalho nous raconte ses souvenirs d'école.
Alors, le Portugal, l'école primaire, je me souviens. Déjà, le chemin pour aller à l'école depuis ce village pour enfants, on y allait régulièrement à pied aussi. Bon, c'était 15 minutes, peut-être une demi-heure. Et sur le chemin, il y avait des pins, des pinèdes. Et il y a toutes ces senteurs déjà sur le chemin de terre battue. Et ça, c'était génial. L'école était entourée d'une partie de cette forêt. Il y avait des grillages et puis c'était une école rose, peinte en rose. Je me souviens qu'il y avait, derrière l'école, il y avait une balançoire en forme de pneu, qu'on aimait beaucoup jouer là-dessus. Et puis, de la maîtresse, je me souviens juste que c'était quelqu'un de très gentil. Et disons que on ne sentait pas, de la part des professeurs, des maîtresses, une différence. Parce que toi, tu viens d'ici, toi, tu viens de là. On était tous des enfants qui étaient là pour apprendre. Et même de la part des autres élèves, c'était... Voilà. D'ailleurs, on ne racontait pas forcément nos vies. Quand on se retrouve entre enfants, on se dit pas « Ah, ma mère !» Non, on est là pour jouer, on est là pour... Ou même pour apprendre. C'est vrai que j'aimais bien. J'étais toujours très appliquée. Alors, mes cahiers, j'écrivais bien pour... Voilà, je mettais des couleurs, des chapitres. Voilà, j'ai toujours été assez appliquée à l'école, ouais.
Mais pour le coup, le départ pour la France a dû être difficile pour vous, puisque vous aviez quoi, 11, 12 ans, et il a fallu quitter ce paradis, cette école rose, cette pinède, pour découvrir Strasbourg, qui est très différent quand même.
Non, en fait, ça n'a pas du tout été difficile. En tant qu'enfant, on m'a dit, tu vas aller en France pour avoir une meilleure vie, pour que tu puisses faire des études et pour que tu puisses devenir quelqu'un. Ça, c'était la phrase, pour que tu puisses devenir quelqu'un. Mais bon, moi, dans ma tête, ce que je me disais, c'est qu'on m'avait raconté qu'en France, il y avait des gens qui mangeaient des pains d'une longueur grande, comme ça. Et puis, ils avaient des chewing-gums roses qui s'appelaient Malabar, qui avaient une forme vraiment différente. Et puis, c'est vrai que quand on est arrivé en France, on avait notre propre chambre, on avait vraiment d'autres choses. En tant qu'enfant, on se rend pas toujours compte. Et puis, ma mère biologique, on n'avait que pendant les vacances, de temps en temps. Du coup, c'était pas un manque énorme au départ. Voilà, c'était quelque chose d'assez, ça s'est fait assez naturellement. Mais c'est petit à petit, quand même, quand on commençait à manquer ces jeux-là, et puis ne plus pouvoir parler autant notre langue avec les gens autour, et puis, on a tiré dans un village alsacien où on était les seuls noirs. Et apparemment, les gens, ils avaient peur. Voilà, oui, des noirs, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ah là, c'est petit dangereux, il faut faire attention.
Vous l'avez ressenti, ça, cette crainte des gens à votre égard?
Moi, je ne l'ai pas ressenti personnellement, j'entendais. Mais c'est vrai que même là, dans ce village qui était alsacien et qu'il n'y avait pas de noirs, soi-disant, moi, une fois de plus, je n'ai pas senti ce racisme, on va dire, auquel on peut s'attendre, en fait. J'ai une mémoire sélective aussi qui fait que c'est passé... Voilà.
Avez-vous des souvenirs de l'Angola lorsque vous étiez une toute petite fille, avant votre départ au Portugal?
Bah ouais, en fait, la chance d'avoir vécu dans des endroits aussi différents, c'est qu'on sait clairement que le souvenir peut venir que de cet endroit-là. Et donc, ouais, de l'Angola, j'ai quelques souvenirs, justement, de mon école. Je me souviens qu'on s'enseignait sur des bidons en fer. Je me souviens de cette terre rouge. C'est quelque chose qui m'est longtemps resté. Et quand je voulais retourner en Angola, c'était quelque chose d'important. Je voulais revoir cette terre rouge parce que c'est vraiment, dans mes souvenirs, c'était quelque chose d'important. Il y avait même un moment, on se baladait avec ma sœur, comme ça, on allait au marché. Et puis, on avait trouvé un petit coquillage et où il y avait encore dedans la chair. Et puis voilà, on a trouvé ce coquillage, on est rentré à la maison, on a cuisiné ce seul petit coquillage, un peu comme si on avait trouvé une seule huître, on a trouvé l'huître.
Trésor.
Ah oui, on a rentré, on a cuisiné, et on a dégusté, on a partagé en deux, et c'était pour nous magnifique.
C'était la leçon de choses de Sophie Bobert avec Lucia de Carvalho, chanteuse. Lucia de Carvalho, dont Cousola, le chant des racines, retrace le parcours singulier. Ce film a été primé dans 7 festivals et il sort mercredi en salle. Merci à toute l'équipe de Rue des Écoles, Somanina, Alexandre Dang, Marie Dalquier. N'oubliez pas que cette émission se podcast et nous nous retrouvons aussi dimanche prochain à 17h sur France Culture. Bonne soirée à tous.